Bonjour chers amis, vous êtes sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Et vous allez écouter l'émission « C'est quoi la question ?». Après nos émissions « Que peuvent les mots ?», après l'autre émission « L'ignorant peut-il être heureux ?» ou encore « L'art peut-il changer le monde ?», les trois compères Olivier Lastis, Olivier bonjour.
Bonjour Dominique.
Gabriel Seban, Gabriel bonjour.
Bonjour Dominique.
Et moi-même Dominique Desmichel, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle question. Pour pouvoir vivre en société, faut-il ne plus penser à soi ? Alors reprenons un tout petit peu les termes même de la question. Vivre en société, ça veut dire quoi ? Ben vivre, c'est exister. Mais est-ce que c'est vivre bien ou est-ce que c'est survivre ? Est-ce que c'est être en lien avec ses envies, son désir propre et inscrit dans une vie ? Voilà, donc on pourrait déjà essayer de réfléchir sur cette question de vivre en société. Du côté du vivre. Pour le en société, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas seulement seul, mais aussi avec l'autre, avec un collectif social et économique, mais aussi dans un espace politique où chacun cherche et doit, idéalement, en tout cas au moins, trouver sa place. Et puis ensuite, je relis la question, pourquoi, pour pouvoir vivre en société, faut-il ne plus penser à toi, à soi ? Faut-il, est-ce que c'est une obligation, une contrainte ou une invitation à y vivre au mieux ? Cela fait beaucoup de questions et on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce que c'est que penser à soi ? Mon petit lapsus, et d'ailleurs je trouve intéressant parce que penser à moi et penser à toi finalement, ce sont deux choses qui sont probablement toujours dans une sorte de dialectique et peut-être un peu de conflit, même si de temps en temps, donner à l'autre apporte plus de bonheur que donner à soi-même. Nous savons, en tout cas, que trouver sa place dans la société nécessite de compter avant tout sur nous-mêmes. Nous avons le plus souvent fait l'expérience que pour acquérir un savoir, une compétence, un métier, puis un job, avec la nécessité de négocier un contrat de travail, eh bien, il faut s'y mettre. Si nous ne pensons pas à nous, personne d'autre ne le fera, sauf peut-être quand nous serons au bout du rouleau, et encore. Et puis, ce ne sera alors probablement plus vivre vraiment en société. De plus, la concurrence entre les personnes est qu'au cœur du marché, en particulier celui du travail, il faut donc compter sur soi. A contrario, vivre en société implique bien évidemment de tenir compte des autres. On ne peut être réduit à une vie de compétition et de rivalité permanente. Une société au sein de laquelle chacun ne penserait qu'à lui apparaît bien comme vraiment tout à fait impensable et serait même à l'évidence très vraisemblablement invivable. L'égoïsme est d'ailleurs perçu comme un défaut et l'altruisme comme une qualité, ce qui prouve bien qu'un devoir moral collectif nous habite. La question qui se pose serait-elle alors celle d'un équilibre entre se préoccuper d'autrui et lâcher certains de nos intérêts privés en vue d'un profit plus large ? Nous savons aussi que les enfants apprennent tôt à comprendre, à écouter, à tenir compte des besoins de leurs proches. Ils sont porteurs d'une empathie qui les invite à ne pas penser qu'à eux. Nous savons tous qu'il y a souvent, comme je disais tout à l'heure, plus de plaisir, en fait de bonheur, à donner qu'à recevoir. Mais la société est faite d'échanges permettant une vie collective la plus harmonieuse possible. L'échange choisi ou seulement consenti est souvent un rapport de force où chacun est au minimum attentif à son intérêt personnel et au maximum désireux d'accumuler, avoir et pouvoir aussi. Peut-être peut-on le regretter, mais c'est souvent quand même probablement un peu comme ça. Alors, j'ai envie de vous citer quelques penseurs, il y en a certains sûrement que vous connaissez bien, Rousseau par exemple, hein, qui est du 18e, qui occupe la grande partie du 18e, et dans « Du contrat social » écrit en 1762, il rappelle que la nature de l'homme qui se réfère avant tout à lui-même, et que le passage au sens collectif implique un apprentissage. Mais celui-ci se fait ensuite, nous dit ce grand philosophe, « naturel », certes, il est optimiste, car notre intérêt bien compris doit tenir compte de l'intérêt commun. Et en faisant cela, au fond, on s'y retrouve largement. L'homme est forcé de s'associer à ses semblables pour créer la société. Rousseau a montré que la différence entre l'état de nature et la société civile n'existe qu'à l'état de nature quand les individus ne se rapportent qu'à eux-mêmes, alors que dans la société civile, chacun devient membre d'un corps dont la survie de chacun est indissociable du collectif. Il précise cependant que ce contrat social ne saurait tenir si l'on exige des hommes qu'ils sacrifient leurs propres intérêts. Donc, penser au bien commun, ce n'est probablement pas du tout renoncer à son intérêt, car celui-ci ne saurait être satisfait que dans le cadre stable et pacifié de ce même contrat social. Voilà, il me semble, une bonne dialectique posée. Alors, Adam Smith, 1723-1790, qui est ce grand économiste écossais, qui est peut-être le père de l'économie politique, dans « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », on connaît plus ce livre sous le nom de « La richesse des nations », qui a été écrit en 1776, raconte que le genre humain ne survivrait pas si nous devions attendre l'altruisme des autres pour survivre. Au fond, le boulanger fait du pain avant tout parce qu'il y trouve son compte. Il affirme qu'il ne faut pas compter sur la bienveillance des autres. Une société ne peut devenir stable que si, et seulement si, chacun pense à lui et défend ses intérêts. Ça l'aide peut-être un peu songeur, mais au fond, ça a un parti pris réaliste et très concret qu'il me semble important de bien considérer. D'ailleurs, côté littérature, l'ombre du tout pour l'autre me semble bien illustrée dans la figure du Père Goriot, écrit en 1835 par Balzac dans le roman qui porte le même nom. Et c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un homme qui va sacrifier son existence pour l'intérêt de ses filles. Il va non seulement sacrifier son existence, mais même sacrifier sa vie. Je voudrais citer pour finir le philosophe utilitariste australien Peter Singer, qui est né en 1946, et qui a montré que lorsque nous agissons de façon altruiste, nous bénéficions d'une plus grande satisfaction que lorsque nos choix sont purement égoïstes. Au fond, il y a de la joie à donner. On peut ainsi en déduire que penser aux autres n'est pas nécessairement ne pas penser à soi, que tout don est associé à un contre-don, ça c'est tous les travaux de Marcel Mauss, et que ce dernier est parfois, surtout sur le long terme, largement plus profitable que le centrage intéressé sur soi. Alors, vivre en société, est-ce que c'est vivre avec les autres? Et est-ce qu'aucune société ne peut exister si les hommes ne pensent qu'à eux? Dans ce registre d'ailleurs de l'exigence morale, indispensable il me semble au vivre ensemble, Lévinas a poussé très loin la loi morale. Ceux qui le connaissent un peu savent que pour lui, le visage de l'autre, cette part de lui toujours découverte, nue et éminemment vulnérable, vulnus c'est la blessure en latin, cette part de l'autre nous commande, nous impose le respect. Toute relation, tout vivre ensemble est d'emblée éthique. Pour vivre avec l'autre, nous ne pouvons faire autrement que de sortir du centrage exclusif sur soi pour tenir compte d'autrui, nous dit Lévinas. Faut-il pour autant tout sacrifier pour ne plus penser qu'aux autres et au bien commun? Eh bien, nous allons essayer d'y réfléchir un peu. Et puis, sur le plan psychique, peut-être que l'écoute de soi et l'écoute de l'autre ouvrent à un questionnement éthique, puis ensuite à l'émergence de la morale. Ça, c'est le travail de Ricoeur. Et j'en profite pour faire un petit peu de pub pour dire que, en ce moment, je fais avec Simon une émission autour de l'éthique et que vous, les auditeurs, vous pouvez aussi la retrouver. Alors, que dire pour ne pas trop bavarder? Peut-être que finalement, la générosité vis-à-vis de l'autre s'arrête là où commence l'oubli de soi-même et rapidement peut-être le mépris de soi-même. Peut-être qu'une générosité sans limite place de facto l'autre dans une position d'enfant. « Je te donne », dit la bonne mère. « Prends le lait de mon sein sans limite ». Et on sait bien que ces mères sacrificielles ne favorisent pas l'autonomie de l'enfant. Comme le père Goriot, elles en meurent. Alors, chers amis, j'ai déjà été un petit peu trop bavard comme d'habitude. Je vous cède la parole et je vous repose cette question. Pour pouvoir vivre en société, faut-il ne plus penser à soi? Qui commence? pluriel.
Il y a tellement de possibilités de tirer des réflexions, le fil de pas mal de regards à partir de tout ce que tu as dit, que je vais partir, moi, de quelque chose qui m'a interrogé dès le départ de ton analyse, c'est la société est-elle une contrainte contre nature ? Société et nature, Rousseau effectivement l'a abordé, mais je trouve que se mettre dans une position où effectivement il ne faudrait ne plus penser à soi, c'est se mettre un petit peu contre nature, parce que on a besoin effectivement pour exister de vivre et de survivre, de penser un minimum à soi, indépendamment de tout autre comportement ou posture de doute, d'affirmation ou d'action sur laquelle on va se projeter. Donc voilà, ça c'est la première. Et puis, deuxième question qui me vient à partir de celle-ci, c'est pour se sentir vivre comme on le souhaiterait, faut-il être dans une conscience qui nous permet à chaque instant de repousser toujours plus loin les limites ? Parce que la société, effectivement, si on la regarde sous l'angle des contraintes, elle peut effectivement faire valoir un certain nombre de limites pour l'individu. Alors, je parle d'abord de l'individu, on passera peut-être de l'individu au groupe d'individus qui, eux-mêmes, peuvent générer des égoïsmes, des pensées particulières, des actions particulières. Voilà, moi je commencerai déjà par réagir comme ça. Après, on verra.
Olivier ?
Alors, je me suis posé à cette question, c'est quoi la question pour vivre en société ? Faut-il ne plus penser à soi ? Donc, dans la question posée, il y a une espèce de registre d'opposition. Et je me suis dit, mais si c'était pas ça, finalement, si c'était pas un registre d'opposition, parce que... Et donc, en quelque sorte, si cette question ne se posait pas ou ne se posait pas comme ça. Autrement dit, si penser à soi ou renoncer à penser à soi n'entretenait finalement pas beaucoup de liens avec la faculté de vivre en société. C'est-à-dire que c'est en dépliant les deux registres, vivre en société, penser à soi, comme deux choses tout à fait différentes. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, penser à soi, c'est quoi ? On peut le dire, par exemple, on peut penser que c'est synonyme de réaliser ses désirs. Alors, réaliser ses désirs dans un espace d'une société, en effet, ça suppose une question morale, en quelque sorte. La morale, c'est quelque chose d'indispensable à la vie en société, sans doute. Ou du moins, et c'est presque l'anagramme de morale, disons que ça peut peut-être se poser par rapport au normal. Est-ce que penser à soi peut être normal ou pas ? Et donc, du coup, du point de vue de la société, à quel moment l'anormal, du fait de penser à soi, du fait de réaliser ses propres désirs, à quel moment l'anormal pose un problème en société ? J'aurais envie de transformer la question un petit peu comme ça.
L'anormal,
voilà, L'apostrophe, anormal. À quel moment l'anormal, ce qui n'est pas normal, pose un problème pour la vie en société ? Alors, quelque chose d'anormal en termes de comportement exprimé, en tout cas. Voilà, j'aurais envie de prendre la chose sous cet angle-là. En disant, par exemple, à propos de quelque chose qu'on connaît bien du côté de la psychanalyse, hein, la pulsion. La pulsion, au fond, n'a rien de normal. Elle n'a rien d'anormal non plus. C'est-à-dire qu'elle a une forme de neutralité au regard, justement, de la société. Une pulsion peut tout à fait être considérée comme normale. En tout cas, il est normal de vivre des pulsions. Leur expression, par contre, et c'est uniquement au moment de leur expression que ça peut poser donc un problème en société, ce qui explique que la société, effectivement, se défend de certaines d'entre elles. Hein, si on parle de pulsions extrêmes, comme les pulsions meurtrières, par exemple, évidemment, la société s'en défend En tout cas, la société aujourd'hui s'en défend. Ce n'est pas certain que de tout temps, ça a été le cas. En tout cas, de tout temps et pour tout le monde. Il est possible que des pulsions meurtrières aient été aussi valorisées à certains moments de l'histoire de certaines sociétés, en tout cas. Voilà, pour commencer un peu, moi j'aurais envie de prendre aussi le problème en le tordant un tout petit peu, quoi, en le détournant un tout petit peu.
Dans le lien que je ferai peut-être entre vos deux remarques, j'avais envie de reprendre ce que tu disais, Gabriel, du côté des limites, puisque tu parlais de repousser les limites. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'on fait un lien, là, toi, tu l'as associé, au fond, à une sorte de prise de conscience. De quoi? De l'articulation entre moi et le collectif, entre l'individu et le groupe? Est-ce qu'il y a lieu de faire un lien, par exemple, avec cet espace, par exemple, des pulsions?
Je prends deux exemples, la liberté et la justice. Parce que je pense que ces deux notions sont présentes, ancrées très profondément dans les esprits de chacun. Si je suis seul, personne ne va m'empêcher de faire la chose qui me passe par la tête, et sans présumer de la qualité de ce que ce sera, au moment où ça passera dans ma tête. Si je suis dans la société, je suis dans le rapport aux autres et je suis dans un cadre normé où en particulier la justice va mettre son nez dans mes affaires. Si toutefois j'outrepasse mes capacités et mes droits, tout simplement. Donc je fais la différence entre mon intériorité qui me pousse à aller dans le sens de mes pulsions, de mes désirs, et la faisabilité de mes actes en regard de ce qui me tient particulièrement, ce qui tient particulièrement mes envies. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est une articulation importante. On part de l'individu pour retrouver la société. La société ne se surimpose pas à l'individu comme quelque chose qui serait un donné à un instant précis qu'il faudrait accepter. C'est un résultat d'un fonctionnement, d'une expérience des choses qui fait que je me confronte à tous les chaînons manquants, mais qui ne manquent pas d'exister à chaque fois que je doute, j'affirme ou j'agis.
En général, il y a quand même une sorte de prévalence en termes de valeur et en termes de puissance du collectif par rapport à l'individuel.
Oui, mais on peut penser que le collectif renforce certaines données individuelles, c'est-à-dire qu'elles émanent des individus dans leurs statistiques de présence et d'expression, et non pas, elles ne créent pas de nouvelles valeurs extérieures à l'individu. Donc j'en reviens toujours à la racine. Nous sommes effectivement dans un groupe qui ensuite nous fait valoir une appartenance.
Alors, est-ce qu'on pourrait changer, par exemple, et peut-être Olivier, si tu peux réagir là-dessus, est-ce qu'on pourrait changer la question qui serait, pour pouvoir vivre en société, faut-il cesser de ne penser qu'à soi? C'est pas tout à fait la même chose, bien évidemment.
Oui, je vais faire un petit détour peut-être parce que le raisonnement par la pulsion ou le raisonnement donc individuel parfois me paraît quand même à mettre éventuellement, enfin, en tout cas il est intéressant de le mettre parfois entre parenthèses. Par exemple, restons du côté de, en effet, cette responsabilité individuelle là, que Gabriel sous-entend dans la fabrication d'une société. On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui, du burn-out. Voilà, le burn-out, hein, qui est Qu'on pourrait dire aussi, bon, finalement, c'est pas quelque chose de nouveau, le burn-out, ça a toujours existé, c'est la dépression, etc., etc. Sauf que le burn-out, il est identifié comme venant, en règle générale, de l'activité professionnelle. Bon. Évidemment qu'on peut tous, toujours, et je pense même qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on est toujours responsable de la situation dans laquelle on est, en tout cas de faire quelque chose de la situation dans laquelle on est. Évidemment, même si on va très mal, on a affaire avec ça, même si c'est injuste, mais injuste au regard de quoi ? En tout cas, bah, d'une condamnation, injuste parce que éventuellement, voilà, on a eu un accident au travail, ou en tout cas, voilà. Mais le burn-out est souvent très, très lié aux relations aussi hiérarchiques. Et les relations hiérarchiques, on peut là aussi les placer du côté d'une responsabilité individuelle. Là, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un méchant extérieur qui provoque le burn-out. Bon. Mais on peut aussi dire que cette situation, par exemple, de pression hiérarchique dans une entreprise est liée à l'exigence de résultats de cette entreprise. Donc du coup, le méchant qui met la pression n'est pas non plus intégralement responsable de sa situation ou de sa manière d'être et de sa manière de faire pression sur les autres, etc., etc. Et puis donc du coup, cette pression dans la réussite économique, on peut la mettre du côté d'un système économique tel qu'il existe, etc., etc. Donc on peut aussi aller chercher des explications du côté du collectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, à mon sens, de tout mettre du côté de l'individu. Quand je parlais tout à l'heure de la pulsion, justement, là je plaçais ça de manière très, très, très individuelle. C'est la manière dont éventuellement, effectivement, on a une vie intérieure, en tout cas des besoins. La pulsion, hein, elle s'exprime en termes de besoins souvent. Ces besoins-là, effectivement, nous en sommes comptables, nous en sommes responsables. Pour autant, lorsqu'ils sont contrariés, lorsqu'ils sont même parfois violentés, bousculés, on peut remonter à des causes qui sont, ou on peut non pas remonter, mais au contraire aller à des causes plus sociales, plus collectives, qui cette fois, en quelque sorte, dédouanent de la responsabilité individuelle. Alors c'est pour ça que j'ai pas très envie de passer ça du côté de la responsabilité, au fond. Hein, puisque d'abord, ces besoins, au fond, on est responsable de ce qu'on en fait, mais pas de ce qu'on vit, des besoins que nous pouvons avoir. Et par ailleurs, ces besoins ne sont pas non plus forcément contradictoires. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait neutres par rapport au social. Je veux dire, je parlais tout à l'heure de pulsion meurtrière, de besoin de faire du mal, par exemple, si tant est que ça puisse exister. Évidemment, ça, la société s'en défend. Mais le besoin de manger, par exemple, est plutôt, au contraire, un facteur qui se traduit souvent par la fabrication du social. Par exemple, hein, le repas est un moment généralement de partage, etc. Donc j'ai du mal à dire, j'ai du mal à associer de manière systématique, disons, la question de la société à la question de l'intériorité, au fond. Ce sont deux ordres d'explication qui peuvent être dissociés, qui peuvent avoir des liens, mais c'est surtout deux manières de voir les choses qui sont très hétéronomes l'une à l'autre, il me semble.
Alors, moi, je reprends juste, si tu permets, Gabriel, parce que c'est juste sur la question du burn-out. Bien évidemment, on sait bien que dans l'épuisement professionnel, il y a des contraintes extérieures qui peuvent être tout à fait terrifiantes. Mais j'ai aussi envie de dire que, le plus souvent, les gens qui font des burn-out profonds ont une... Enfin, pour moi, le burn-out, c'est aussi une pathologie du don. C'est-à-dire, ce sont des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent. C'est-à-dire, là, on est dans une espèce de contre-exemple. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'oublient complètement eux-mêmes et qui, finalement, vont le payer très cher. Celui qui, à 5h moins 5, quand il termine son travail à 5h, a déjà son manteau et ses clés de voiture dans sa poche, il ne fera pas de burn-out. Celui qui va faire un burn-out, c'est celui, en raison de contraintes extérieures et aussi probablement de contraintes intérieures. Il ne s'agit absolument pas de l'accabler, bien évidemment. On n'est pas ici pour culpabiliser qui que ce soit. Mais en raison de contraintes intérieures, lui, à 5h moins 5, il est là, mais à 6h moins 5, il est là, à 7h moins 5, il est là, et éventuellement, à 19h 55, il est encore là. Donc, on voit bien, il me semble, puisque tu reprends cet exemple-là du burn-out, que ici, l'espace sociétal va être extrêmement, extrêmement contraignant, mais aussi que l'espace intérieur peut se faire dramatiquement complice d'une pression extérieure qui d'ailleurs parfois n'est pas tout à fait majeur non plus.
Hein. Oui, absolument, mais c'est bien en ça que je disais qu'il y a vraiment deux ordres d'explication.
Ouais.
Et effectivement, des facteurs qui peuvent se conjoindre ou se disjoindre selon les cas.
Ouais,
mais
ouais.
En tous les cas, ce sont, c'est extrêmement difficile, encore une fois. Et je pense que ce que tu dis va complètement dans le sens de ce que j'ai essayé d'expliquer, peut-être pas suffisamment clairement, mais que l'explication de la place dans la société et de la vie dans la société répond à une certaine forme de pensée, à certains concepts, à une certaine façon de vouloir expliquer le monde, et l'intériorité à une autre. Et que c'est très difficile, c'est pour ça que cette question me paraît très difficile, puisque l'opposition société-pensée à soi est une forme d'opposition collectif-individuelle. Et on a là deux ordres vraiment très dissemblables de construction pour essayer de comprendre en tout cas quelque chose dans les situations. On parlait du burn-out comme un exemple, mais on pourrait trouver évidemment mille autres exemples, hein, mais difficile à... C'est pas congruent, quoi. C'est-à-dire qu'une situation, en effet, une même situation dans une société précise à un moment précis, génère des effets tout à fait différents chez chacun, de la même manière que chacun peut avoir aussi sa propre responsabilité dans la création d'un certain contexte de société à un moment ou un autre. Mais pour autant, ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes idées qu'on convoque pour essayer de les comprendre, quoi, il me semble.
Gabriel.
Oui, alors moi, j'ai bien écouté et j'apprécie les raisons et les développements que tu as fait, Olivier, bien entendu. Mais je crois qu'on parle en termes de différence sur des explications de cause. En fait, lorsqu'on se pose la question, pour pouvoir vivre en société, faut-il ne plus penser à soi ? On n'est plus sur des causes, on est sur de la posture, c'est-à-dire sur de l'interprétation qui forcément touche l'individu. Parce que tu as parlé d'économie, de burn-out, du travail, donc du coup, bien sûr que les logiques de l'économie vont à un moment donné se trouver confrontées naturellement par le contexte social à, je dirais, des impossibilités d'aller au-delà, même si on est allé très loin déjà dans ce domaine et par rapport à je dirais, un confort qu'on souhaiterait pour un maximum de gens dans le monde. Donc, je prends l'explication que tu donnes sur les raisons intrinsèques à des collectifs, comme par exemple la structure économique ou la logique économique, je ne sais plus comment il faut l'appeler, mais elle fait quand même écho par un concept commun, et c'est là où je me différencie un petit peu par le terme que tu as employé de congruence, elle fait écho à une même logique qui est perçue par l'individu, qui est le point, je dirais, de pivotement ou d'équilibre dynamique des choses, c'est l'évaluation. Si on est dans une évaluation qui permet l'action corrective, à ce moment-là, on est amené effectivement à ne plus voir la cause, qui est la cause institutionnelle, on va dire, qui dépasse l'individu, mais de voir l'effet de cette cause qui devient une cause secondaire pour l'individu. Tu vois ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais le principe est de retrouver toujours, de par le questionnement qui est posé, l'individu au centre du choix possible qu'il aura à faire.
Alors du coup, moi, j'ai envie de reprendre aussi et peut-être de revenir sur un point que j'ai exposé un petit peu dans mon introduction et que pour l'instant, vous ne reprenez pas et qui revient aussi à rechanger la question de cette proposition très binaire que j'ai faite en opposant voilà, quelque chose qui est de l'ordre de dire pour que la société aille bien, il faut que je pense pas trop à moi, au fond. Et moi, j'ai envie de reproposer à votre réflexion l'idée que est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur le fait que ça pourrait être tout à fait l'inverse ? C'est-à-dire que, finalement, si je donne une place, une certaine place, éventuellement une place importante au collectif, est-ce que c'est pas, je vais le faire court et de le dire de manière un petit peu triviale, est-ce que c'est pas tout bénef pour soi ?
Je pense que c'est en partie vrai. Alors je reprends ma petite grille du côté des choses, je crois qu'on connaît bien, parce que toute cette question de normes, justement, sociales, dont je parlais tout à l'heure, et je vais rejoindre ce que tu disais, Dominique, hein, je viens de faire un détour, mais il n'est pas si grand que ça, toutes ces questions sont, au fond, intériorisées. Alors, Freud appelait ça le surmoi, une espèce de garant de limites qu'on peut avoir au regard de ce qu'on fait avec les autres. Voilà, ça, c'est totalement intériorisé. En effet. Bon, donc je crois que alors l'appel comme ça au surmoi peut paraître un petit peu simple, hein, mais
d'autant qu'il est du côté du restrictif, de la limite.
Oui, de la limite. Ah, de la limite. Mais je pense que la question de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas relève aussi de questions de normes, c'est-à-dire en fait de limites. Et je pense que la place de chacun dans une société relève des limites. Alors essentiellement des limites. Par rapport justement à la neutralité de la pulsion, hein, la manière dont on s'adresse aux autres, alors ça c'est plus tout à fait la pulsion, mais c'est la demande, hein, c'est la demande, c'est l'émergence du désir. Hein. Il y avait une jolie phrase comme ça qui dit que le désir commence lorsque la demande se déchire du besoin. Alors on peut prendre un exemple très très simple, hein, l'enfant qui a besoin de se nourrir, et puis ensuite l'adulte qui a envie de bien manger. On est passé d'un besoin à quelque chose qui est de l'ordre du désir. Bon. Donc ces choses-là, ce sont des articulations proprement individuelles, mais je m'aperçois qu'en fait, en me disant tout ça, j'ai oublié ta question.
Eh bien, ma question, en fait, elle revenait au fond à dire est-ce que, finalement, cette opposition un petit peu binaire avec l'idée pour vivre en collectif, il ne faut quand même pas trop penser à soi, est-ce qu'on ne pourrait pas la penser à l'inverse ? Parce que, finalement, j'essayais de repenser à des figures un petit peu archétypiques de gens qui auraient énormément donné pour les autres, parfois en s'oubliant eux-mêmes. Je me demande si ce n'est pas ces gens-là qui ont accès à la plus grande joie. On aura la plus grande capacité de joie. Finalement, je reprends ce que disait Adam Smith quand il parle du boulanger. C'est simple. Au fond, le boulanger, il fait du pain, et puis il tâche de faire du bon pain. Mais si, éventuellement, il fait du bon pain, non, si il fait du bon pain, il va avoir une bonne boutique, il va avoir des clients. Mais s'il fait un pain excellent, est-ce que finalement il va avoir peut-être pas beaucoup plus de clients, mais est-ce qu'il va pas avoir quelque chose de plus, justement, et qui serait ici l'exemple que, justement, il y a une sorte de lien entre il pense à lui et en même temps il pense au collectif.
L'inversion dont tu parles, il me semble que ça rejoint d'assez près deux paradigmes qui s'opposent dans les sciences sociales, qui est le paradigme intérêtiste et le paradigme du don. Adam Smith est le tenant de l'intérêt.
De l'intérêt, tout à fait.
L'homme, dans une sphère économique, agit d'abord et avant tout pour son propre intérêt, et c'est l'ajustement de l'intérêt de chacun qui fait que la société peut fonctionner, ce qui donne à terme quelque chose d'assez libéral dans le fonctionnement. Et le paradigme du don, qui est en fait moins libéral, au sens où donner, c'est contraindre l'autre. Contraindre l'autre à te rendre. Parce que le paradigme du don, c'est comme ça hein, qu'il fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas du tout...
Il y a un contre-don.
Voilà, il y a un contre-don appelé nécessairement. C'est-à-dire que c'est pas de la philanthropie en soi. C'est pas du don de soi gratuit. Le principe du don est de très fortement attendre de l'autre qu'un don en retour se fasse. Et très souvent, plus important encore que le premier.
Voilà, mais que le contre-don, il peut être par exemple narcissique. Oui. Et il peut être aussi du côté de la joie. Il ne faut pas aussi l'oublier, il me semble, hein, dans l'approche vraiment de peut-être un petit peu plus de Spinoza qui dit voilà, que quand on avance, alors on a une sorte de progression d'être, hein, c'est ce conatus qui donne de la joie. et où là, probablement, ici, quelque chose de l'ordre du collectif ne vient pas entrer dans cette dialectique pure du « je pense à l'autre parce qu'il faut bien »,« je pense à moi parce qu'il faut bien » ou « parce que j'obéis à mon surmoi », mais pour quelque chose d'autre. Je rebondis sur ta question d'arrêter, comme je l'ai fait dans la question, d'arrêter d'opposer les choses, mais pour voir que c'est quand même plus compliqué. Gabriel, toi, oui. Par rapport à ta fibre, à ton expérience longue sur le plan social, tu...
Alors moi, je voudrais d'abord réagir sur le terme collectif. Je voudrais savoir ce que l'on nomme le collectif, parce que je me reporte à des régimes qui sont très autoritaires et qui l'ont été, notamment, je pense à l'Allemagne durant la dernière guerre. Est-ce que vraiment on peut prôner de ne plus penser à soi pour effectivement cadrer avec un collectif qui serait hors cadre de certaines valeurs? Dans l'exemple du boulanger que tu donnes, effectivement, la fonction peut bénéficier à tout le monde. Seulement, dans un cadre différent et plus élargi, on s'aperçoit que ne plus penser à soi, c'est cautionner finalement des choses qui pourraient ne pas être cautionnables du tout. Et du coup, ça me pousse à définir plus précisément une qualification plus précise du collectif. Qu'est-ce qu'on entend par collectif et dans quel sens y voit-on une légitimité particulière ? El filo del alma y un pétalo rojo, un sujeto en las piedras de mortales que un día jugaron a ser dioses justos y fieles. Un pétalo frágil que bebe el agua de las historias más crueles, niños que no escucharon nunca un cuento, amores que aman con vestidos de arrepentimiento, cuerpos con años que no disfrutaron la vida, sueño olvidado de mentes ya siempre dormidas. Y tú, mi bello jardinero, te das a mi pétalo río. Cuánto miedo me da que me dejes crecer para arrancarme luego. Veré que me arrancarás luego, no, 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 como confiar en hombre de corazón frío, sin compasión, creador de la guerra, adueñado del sol, señor del agua, del río, del mar y los dioses, te fuiste a olvidar. ¿Cómo eres capaz de quererme sin reconocer tu verdad? ¿Cómo confiar y cómo confiar? Puede que el alba me lave la cara y me deje ver con claridad la belleza del ser humano. Termina en cuanto la fe deja de luchar, jardinero, si muero que quise probar.
Il me semble que le collectif, c'est toujours, comme tu le dis, Gabriel, une affaire de définition. Pour pouvoir en parler, il faut d'abord le définir.
Mais oui.
Mais je pense pas qu'il y ait de définition essentielle du collectif. Les collectifs, il peut en exister énormément, tout dépend du collectif qu'on étudie, justement. Par exemple, si on est sociologue, on va désigner un quartier, on va désigner un peuple, ou on va désigner des gens qui appartiennent à un métier, mais le collectif est toujours une affaire de, là aussi, de normes, c'est-à-dire qu'on va fixer des limites à ce que ce collectif est ou n'est pas au regard des autres collectifs éventuellement comparables. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse donner une définition absolue de ce qu'est un collectif.
C'est pour ça que je préfère parler, moi, en termes d'appartenance à des groupes plus ou moins définis, plus ou moins élargis, mais qui donnent, je dirais, un écho, un effet miroir à cette notion de validation ou d'évaluation, inversement. Hein, l'évaluation peut être pesante dans le cadre d'une, d'un individu, par exemple, qui aurait des problèmes personnels qu'il n'arriverait pas à dépasser. C'est pas l'évaluation en soi qui pèserait, ce serait la perception de cette évaluation dans le cadre de son anormalité ou sa pathologie, je ne sais pas comment il faut dire, quoi.
Quand voilà. Tu parles d'évaluation, c'est de l'évaluation de la justesse, de son implication dans cette dialectique entre je pense à moi et je pense aux
tout
autres, c'est ça dont
tout
tu veux parler.
D'accord. Et je pense, je ne sais pas, vous êtes sans doute mieux placé que moi pour le dire et pour le corriger si matière il y a. Je pense que tout individu utilise de façon non dite une comptabilité affective. Et cette comptabilité affective est plus ou moins juste puisqu'elle émane de sa propre perception. Et du coup, si elle engendre de la frustration, ça peut être à tort ou à raison. Ça peut être à tort si effectivement, objectivement, il y a des contraintes qui pèsent et qui limitent un droit acceptable pour sa liberté et qui l'oblige à en réduire le déploiement. Mais ça peut être aussi quelque chose qui tient à l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, il y a la concurrence, bien sûr, il y a l'économie qui pèse et qui fait que le travail n'est pas le plein emploi pour toute la population et qu'il faut qu'il se défende. Mais inversement, il se défendra d'autant moins qu'effectivement, il se sentira revendicateur ou largué, moins dans l'adaptation qu'il ne le faudrait pour pouvoir se donner les moyens d'accéder à une société où il trouverait sa place, où il prendrait sa place. Je ne sais pas comment il faut le dire.
Alors un autre élément peut-être un tout petit peu aussi décalé par rapport à ce que tu dis, c'est aussi de redonner peut-être la valeur destinée à l'individu du collectif, ou en tout cas de la société. C'est-à-dire, vivre en société, ça n'est pas simplement obéir à des règles, obéir à des normes, être assujetti à ces contraintes intérieures, appeler le surmoi, c'est aussi faire partager quelque chose dont on va aussi bénéficier. Donc il ne faut pas aussi...
Et être porté par quelque chose de commun qu'on a intégré aussi.
Voilà. Ce que tu parlais, tu parlais tout à l'heure d'appartenance à un groupe. Hein. Voilà. Donc peut-être c'est important de ne pas oublier ça. Hein. C'est-à-dire que cette opposition entre pour moi et pour l'autre est évidemment trop simpliste, puisque quand je travaille pour l'autre, je travaille aussi pour moi.
Oui, certainement. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. D'ailleurs, dans ce que disait, je crois, Gabriel, c'est toi qui as utilisé le terme de place dans un ensemble collectif, quel qu'il soit. Je pense qu'on peut le renouer, ça, à l'intériorité, encore une fois, d'une autre manière qu'avec le surmoi, en effet. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement, du côté des désirs de tout un chacun, des frustrations qui se produisent, des satisfactions tout autant. Et je me demande si on ne peut pas assimiler, justement, rapprocher en tout cas cette espèce de dialectique, désir, frustration, réalisation, don de soi, bénéfice éventuel qu'on peut tirer d'une situation quelle qu'elle soit, si on ne peut pas l'assimiler à ce qu'on appellerait un symptôme, c'est-à-dire une formation de compromis, justement, entre ce qui est de l'ordre des désirs et ce qui est de l'ordre d'une place désirable aussi qu'on peut avoir et qui suppose quelques sacrifices. Vous voyez, donc une espèce d'idée comme ça, que notre place se construit avec sa part comme ça très intime, c'est renoncement et ses réalisations d'une part, et sa part extime, donc celle de la société, avec là aussi ce qu'on en prend et ce qu'on lui donne. Mais ça ressemble presque à un symptôme, quand on le décrit comme ça, sauf que ce n'est pas forcément un symptôme dérangeant, mais un symptôme au sens simplement du nouage d'une psyché individuelle à l'ensemble des autres, quoi, quelque chose comme ça.
Alors moi j'aurais bien envie de vous interroger sur l'idée d'essayer de prendre des exemples concrets. Tout à l'heure, on a pris un exemple concret qui était le burn-out, par exemple. Parce que ça, tout le monde sait ce que c'est. Et on voit bien que dans le burn-out, il y a un conflit entre une pression extérieure. Hein, voilà, l'entreprise dit qu'il faut augmenter de 10% le chiffre d'affaires et les employés ou les salariés sont priés de suivre et avec le sourire. Et de l'autre, une sorte de pression intérieure qui est où je me syndicalise, où je fais un burn-out si je caricature. Est-ce qu'on peut, quitte à prendre un tout petit peu de temps, essayer de trouver d'autres situations qui nous aideraient très concrètement à réfléchir sur cette tension entre je pense à moi et je pense au collectif.
Je pense qu'il y a un exemple qui nous tord les bras immédiatement, c'est l'exemple des revendications sur les retraites. Si je prends au pied de la lettre la formulation qui est la question d'aujourd'hui, faut-il que je ne pense plus à moi, et donc à mon intérêt immédiat, pour cautionner un système, finalement, qui, à terme, fera travailler plus longtemps et pas forcément vivre plus longtemps. Donc, qui réduira d'autant mon temps de récupération, de liberté, de loyer. Voilà. Ça, c'est un exemple concret. Est-ce que lorsque je pense à ce problème, qui est un problème à la fois démographique, à la fois social, dans la mesure où il entraîne des équilibres de budget, des équilibres pour maintenir simplement l'avantage, soit je suis centré sur moi, et sur mes avantages acquis. Mes avantages acquis, pourquoi je parle en termes d'avantages acquis, quelqu'un qui souffre énormément de la société actuelle aura ses cheveux qui se dressent sur la tête en m'entendant parler d'avantages acquis, puisque lui, il n'en aura pas. Mais certains par le fruit d'une lutte, par le fruit d'un combat qui a été mené par les représentants de ces professions-là, ont réussi à débloquer un certain nombre d'avantages. Ces avantages, soit on les pérennise systématiquement parce qu'ils ont été acquis une fois pour toutes, soit on les remet en question.
En question.
Voilà. Ouais. Et ça pose la question, effectivement, de l'individu par rapport au collectif.
On peut penser d'ailleurs, par exemple, à toute la campagne de vaccination hein, contre le coronavirus aussi, qui a mis en scène cette tension entre ceux qui ne voulaient pas, pour des raisons individuelles, être vaccinés, et puis l'intérêt collectif à ce qu'une grande partie de la population soit vaccinée. Olivier, un autre exemple qui te traverserait ?
Oui, peut-être un exemple comme ça, un peu extrêmement général. Tout à l'heure, je parlais de la pulsion, donc la pulsion qui vient du corps, qui est quelque chose d'éminemment réel, qui d'ailleurs ne trouve pas forcément de mots au départ. Le petit enfant qui a faim, qui crie, c'est la première vocalisation, la première formation, de, non pas d'un mot, mais du langage en tout cas, qui est un appel et puis auquel la personne qui le nourrit va répondre. Et donc c'est voilà, l'arrivée dans le langage. Sauf que le petit peut aussi pleurer pour une autre raison. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme réponse le nourrir alors qu'il pleure parce qu'il a mal, par exemple. On ne sait pas très bien le dire au départ, c'est-à-dire que le sens n'y est pas tout à fait. En fait, premier hiatus comme ça, le premier hiatus entre l'intériorité, cette espèce de réel qu'on ignore un peu, notre corps, ses besoins, etc., et la possibilité simplement qu'il existe dans la société, bah, c'est le langage. Et le langage, il porte en lui, en gestation, nécessairement aussi la méprise, le malentendu. C'est-à-dire que le langage sert à la fois à s'entendre, mais aussi à se malentendre, mais aussi à ne pas se comprendre, mais aussi à se comprendre de travers, à se comprendre à l'envers. Voilà, puisqu'il est toujours pris immédiatement lorsqu'on exprime quelque chose avec le langage, il est pris forcément dans cette espèce de grille d'interprétation que l'autre va avoir, et il n'entendra pas forcément ce qui aura été dit comme ça. Donc en fait, je pense que quand je parlais tout à l'heure de symptômes, de compromis, c'est un ajustement, c'est toujours, ça rate toujours un petit peu cette affaire. Et je pense que c'est aussi ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas si c'est un exemple très concret, le langage, enfin, je pense que tout le monde partage ça quand même, c'est que dans le lien entre le soi, donc sa propre intériorité, et ce qui se passe dans un espace où il y a d'autres personnes, eh bien, c'est que ça rate toujours en partie. Ça rate toujours en partie et ça réussit toujours en partie. Il y a toujours quelque chose d'inachevé, toujours quelque chose d'incompromis, toujours quelque chose qui peut se traduire comme un symptôme dans la mesure où ça raconte quelque chose d'autre que ce que ça a dit, en quelque sorte, quoi.
Je me disais hier, peut-être, je réduis un tout petit peu ce que tu viens de dire là, mais je me disais par exemple que dans l'histoire des retraites qui est très contemporaine, là, voilà, peut-être l'arrière-plan, c'est bien évidemment la question extrêmement complexe du rapport aux gens, non pas simplement au moment où on part, où ils vont partir à la retraite, mais au rapport au travail en général, voilà, qui est de plus en plus désenchanté et non plus porteur ni d'une valeur individuelle, ni d'une valeur collective. Hein. J'ai envie encore de vous proposer, vous avez d'autres exemples où vous diriez qu'il y a cette tension entre je... Oui, Gabriel.
L'écologie avec la position sur le climat. La position sur le climat qui justifie la position de certains de continuer comme si de rien n'était, alors que le collectif et la survie du collectif pourraient bien, dans un avenir assez proche, mettre même ceux qui sont pour dans la nécessité de se mettre à genoux devant une réalité qui avait été envisagée. Voilà.
Là, ça, je trouve que c'est presque tout un débat qu'on pourrait réouvrir ici. Parce que finalement, dans ma question, la notion du temps n'intervient pas au fond. Comme si on était toujours dans quelque chose qui était très ponctuel, à savoir, bon, est-ce que je pense à moi ou est-ce que je pense au collectif. Alors qu'il y a aussi une autre façon de lire les choses, qui est de dire... est-ce qu'il y a une opposition entre « je pense à moi ou au collectif » sur l'instant et sur le long terme ? Et on voit bien ici que les implications de chacun ne sont pas les mêmes. Comme tu le dis, dans l'écologie, à la fois c'est quelque chose qui ne nous concerne pas tout à fait, peut-être pour l'été prochain encore que, qui concerne les autres générations, mais qui finalement nous contraint peut-être à un espace de réflexion et de prise de conscience que pour l'instant nous n'avons pas... accompli.
Mais tu vois, là, il y a encore une... Bon, je ne parlerai pas sur le plan économique. Sur le plan économique, on pourrait justifier effectivement que la concurrence, la nécessité effectivement des balances, des commerciales, des échanges ne permet pas d'avoir une réaction immédiate de rectification qui serait souhaitable pourtant. Mais je crois quand même qu'on est passé trop rapidement. On a vu qu'Adam Smith, lui, parlait en termes d'intérêt sur le plan économique. Mais sur le plan matériel, et pas forcément économique du coup, le terme d'intérêt est central. Est-ce qu'on tient effectivement comme vital un intérêt qui serait le nôtre ? Et qui, si on le perdait, nous ferait perdre l'équilibre de nos réalités, de notre sens, de notre capacité à réagir, tout simplement parce qu'il faudrait fonctionner dans le confort de la continuité du normal qui avait cours jusqu'à présent.
Voilà. Donc l'intérêt ne peut pas être... on ne peut pas, dans la notion de l'intérêt, exclure à la fois un temps long et surtout un sens. Une signification, une sensorialité hein, et une direction. Hein,
absolument.
C'est sûrement absolument. Tout à fait important. Olivier, il nous reste quelques minutes.
Oui, juste pour quelque chose à quoi je pense là, en vous entendant tous les deux, je pense qu'il y a quelque chose de très raté sur la question écologique aujourd'hui. Tu côté de l'écologie comme du côté des opposants éventuels à l'écologie, c'est que tout le monde évoque la question d'une nécessaire austérité. C'est pas très jouissif comme question. Et tant qu'on n'aura pas trouvé, je pense, une manière de proposer, tu utilisais tout à l'heure le terme de joie qui va assez bien avec le terme de jouissance. On pourrait définir beaucoup plus finement la question de la jouissance, mais en tout cas, tant que ces questions ne seront pas du côté d'une jouissance possible, ça sera très compliqué. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de joyeux, effectivement, du côté de propositions écologiques? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de non joyeux à la jouissance immédiate des biens en les détruisant? Ce qui est quand même le principe de nos pulsions, et qui, pour l'instant, ne trouve pas très facilement et très collectivement de place dans le registre de l'écologie. C'est un vrai problème, je pense, ça.
Gabriel, et puis on va conclure.
Moi je, au terme de cet échange qu'on a eu, je suis au pied d'un paradoxe. Le paradoxe, ce serait un paradoxe du vivant, qui serait qu'il faudrait continuer à vivre, mais il faudrait oublier de s'en donner les moyens. Et cela n'exclurez pas que si on s'en donnait vraiment les moyens, par opposition à ceux qui ne feraient rien et qui ne s'adapteraient pas, si on s'en donnait les moyens, il faudrait penser et évaluer précisément si on le ferait même au détriment de l'autre. Et c'est cette réflexion qui serait à réguler socialement. Voilà, pour moi, c'est ça.
Bon, on va s'en tenir là. Peut-être que finalement, vivre en société, c'est une vaste question. Peut-être que c'est penser un peu aux autres et au bien commun comme condition de ce contrat social dont parle Rousseau. Mais en même temps, donc, tenir ses intérêts et ses devoirs. Je pense qu'il ne faut pas oublier, peut-être, du coup, de penser la relation à l'autre à travers la relation à soi. Il ne faut pas oublier de penser la relation à soi à travers la relation à l'autre, à travers la relation au collectif. Ne pas oublier que soi, c'est sûrement important, mais que le collectif aussi nous aide, c'est-à-dire il travaille aussi pour nous. Donc peut-être, au fond, il n'y aurait pas d'opposition, mais une complémentarité dans le court terme et aussi sur le long terme. Et pour reprendre ton mot, Gabriel, je termine là-dessus. Peut-être que cette tension dialectique entre ces deux espaces, c'est un art de vivre. Merci à tous et on se retrouve le mois prochain avec une autre question. On est en train de débattre, on n'a pas encore choisi laquelle. Ça risque d'être... je ne sais pas trop quoi. On verra bien. Au revoir à tous. Merci, bonsoir. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Merci Olivier, merci Gabriel.
Merci à vous.
Merci Dominique. Thank you.
Thank you.